Bonsoir à tous, c'est Radio Castel. On est le 9 octobre et je vous vais présenter ce qu'on va faire ce soir. Alors, il y aura les 10 meilleurs joueurs de basketball de NBA. Ensuite, il y aura la contrefaçon présentée par Mathis. Ensuite, il y aura le surf présenté par Louane. Ensuite, il y aura la météo par Yann. Ensuite, il y aura Alibi.com. C'est un film présenté par Mathis. Et les Walt Disney par Louane.
Et c'est le sport sur Radio Castel.
Bonjour, c'est Yann, je suis très content de faire ma première émission où je vais vous parler du top 10 des meilleurs joueurs de NBA et de leur classement au sein de l'NBA. NBA veut dire National Basket Association, qui correspond à la Ligue de basket américaine. Je vous parle de ce sujet car je fais du basket dans le club de Château-Giron. Allez, assez parlé, je vais commencer par le 10e du classement, qui est le célèbre joueur Blake Griffin, qui joue au poste d'ailier fort dans l'équipe des Clippers, le club de Los Angeles. Il a joué 5 fois dans l'équipe des All-Stars NBA. Le 9e joueur est Paul George. Personnellement, je ne connais pas ce joueur. Il est ailier dans le club d'Oklahoma City. Cette année, il a obtenu le titre de MVP, Most Valuable Player, ce qui veut dire joueur le plus précieux. Le 8e joueur est Anthony Davis, qui évolue en tant qu'ailier fort dans le club Pelicans de la New Orleans. Le 7e joueur est le célèbre James Harden, qui joue en tant que meneur dans l'équipe des Rockets de Houston. Il a été finaliste NBA en 2012 avec le club d'Oklahoma City Thunder. Maintenant, le 6e joueur, un joueur qui m'est totalement inconnu, Kawhi Leonard. Ce joueur évolue en tant qu'ailier dans les Spurs de San Antonio. Il est finaliste NBA en 2013 avec les Spurs, et cette fois-ci, en 2014, il est champion NBA encore une fois avec les Spurs. Le 5e joueur est un joueur très connu, c'est Russell Westbrook. Il évolue dans le club des Thunder d'Oklahoma City en tant que meneur. Il a été finaliste NBA en 2012. Le 4e joueur est le célèbre Chris Paul, qui évolue en tant que meneur dans l'équipe des Clippers de Los Angeles. Stephen Curry, le célèbre meneur des Golden State Warriors, arrive troisième place de ce classement des meilleurs joueurs de NBA. Il a été champion NBA en 2015 et 2017. Il a malheureusement perdu en finale NBA en 2016. Le célèbre Kevin Durant est deuxième de ce classement. Il évolue en tant que meneur dans l'équipe des Golden State Warriors aux côtés de Stephen Curry. Avec lui, il a gagné le titre de champion NBA en 2017. Pour finir, le meilleur joueur NBA en 2017, le célèbre ailier des Cleveland Cavaliers, je vous parle bien évidemment de LeBron James. Du haut de ses 2m02 et de ses 113 kg, LeBron James a été champion NBA en 2012-2013 avec les Miami Heat et en 2016 avec les Cavaliers. Il a été finaliste NBA en 2009 avec les Cavaliers, 2011-2014 avec les Miami Heat, 2015-2017 avec les Cavaliers. En NBA, il y a aussi des basketteurs français comme Tony Parker, Boris Diaw, Nicolas Batum, Rudy Gobert et d'autres. Mais certains jouent également en équipe nationale française. Je vous laisse avec une petite pause musicale avec All Star.
Sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming.
C'est le coup de cœur de la semaine.
Salut tout le monde, c'est Mathis, donc je vais vous présenter la contrefaçon. Donc avant de commencer, je vous informe que acheter ou vendre de la contrefaçon est puni par la loi et je vous invite à ne pas le faire. La contrefaçon est la reproduction ou l'imitation d'un objet, d'un document en particulièrement officiel, d'une œuvre ou d'une marchandise, soit en indiquant ou en laissant présumer que la chose est authentique, soit en violation d'un droit de propriété intellectuelle ou du droit d'auteur. Pour savoir si c'est de la contrefaçon, il y a plusieurs signes qui montrent. Donc, examiner la qualité du produit. Les produits contrefaits sont bien souvent d'une qualité inférieure à celle des produits originaux. Méfiez-vous des prix anormalement bas, même si tous les faux se sont ne sont pas vendus à des prix inférieurs, un prix anormalement bas reste un bon indice. Si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement le cas. Inspectez soigneusement l'emballage. L'emballage des produits enfreignant les DPI est souvent douteux et ne mentionne pas d'adresse du fabricant ni de l'importateur. En outre, de nombreux détenteurs de droits imposent sur leurs produits des hologrammes, des numéros de contrôle ou d'autres mesures de sécurité qui peuvent vous aider à déterminer l'authenticité du produit. Vérifiez si les logos et les marques apparaissent correctement. De prime abord, une contrefaçon peut paraître identique à l'original, mais en la regardant de plus près, vous verrez sans doute quelques différences. Par exemple, les logos sont souvent mal reproduits et les marques mal orthographiées, de manière délibérée ou non. J'espère que ça vous a plu. Je vous passe Louane qui fait une chronique sur le surf.
Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler du surf. Alors, le surf, à la base, ça se dit surf riding. Riding signifie chevaucher. Et surf, vague. Donc normalement, si je me trompe pas, ça fait chevaucher sur les vagues. Et Kaylee Slater était connue pour bien chevaucher les vagues. La plupart des experts pensent que le surf trouverait ses origines à Hawaï, petite île située à côté des États-Unis, connue pour ses chemises en fur, ses plages et son soleil couchant. C'est à Hawaï que des archéologues auraient retrouvé en 1905 la plus ancienne planche de surf dans les tombeaux d'une femme. Le plus dur dans le surf, c'est de repérer les vagues. Et c'est souvent indispensable pour savoir où et comment surfer. Il faut bien regarder la mer et ses mouvements. S'il y a une grosse ou petite bosse, cela veut dire qu'il va avoir une petite ou une grosse vague. À vos planches, prêts, partez, soyez prêts pour la chanson Follow the Muse.
Yann, cette fois-ci je vais vous parler de la météo de la semaine à Rennes. Les températures de la semaine seront estivales avec un minimum de 10 degrés, mardi matin un maximum de 18 degrés mercredi midi. Mardi matin, il fera 10 degrés et le temps sera très nuageux. L'après-midi, il fera entre 16 et 17 degrés avec des éclaircies. Ce sera la Saint-Ghislain. Mercredi sera un jour très nuageux. Il fera entre 12 et 18 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. Ce sera la fête à Firmine. La journée de jeudi sera très nuageuse et très venteuse, environ 40 km/h de vent. Les températures seront de 13 à 16 degrés le matin et de 16 à 18 degrés l'après-midi. N'oubliez pas la fête à Wilfrid. Vendredi, nous aurons quelques éclaircies mais beaucoup de vent, de 40 à 45 km/h de vent. Les températures seront de 14 degrés à 8h, 18 degrés à 14h et de 17 degrés à 20h. Vendredi, c'est la fête à Géraud. Et nous aurons un bon week-end avec beaucoup d'éclaircies, peu de vent, environ 10 km/h, avec 10 degrés au minimum et 20 degrés au maximum. Samedi, ce sera la fête à Juste et dimanche, la Sainte-Thérèse d'Avila. Et pour les élèves, nous serons en semaine B. Allez, je vous souhaite une bonne écoute de Cendrillon et une bonne fin d'émission.
Auditeur, je suis ton animateur. C'est la rubrique cinéma.
C'est Mathis, donc aujourd'hui je vais vous présenter Alibi.com. J'espère que vous connaissez le film. Donc, alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce film. De 1, car il est très apprécié, 4 étoiles sur Allociné. 2, car moi aussi j'ai apprécié ce film. Et 3, car je suppose que vous aussi vous l'appréciez ou vous, que vous l'avez apprécié ou vous l'apprécierez. Grégory Van est le patron d'une entreprise particulière, alibi.com, avec ses associés Augustin et Mehdi. Il crée des alibis parfaits pour ses clients afin de cacher une infidélité, d'éviter une réunion, de préserver une vie privée. Alors que l'entreprise a le vent en poupe, il tombe amoureux de Florence, qui place l'honnêteté au cœur d'une relation amoureuse. Greg accumule les mensonges pour lui cacher son véritable emploi en s'improvisant steward. Un jour, un certain Gérard Martin se présente chez Alibi.com. Il vient y louer leur service, souhaitant cacher sa relation avec une jeune chanteuse. Se rendant compte qu'il s'agit du père de Florence, Greg va devoir se livrer à une surenchère de mensonges pour cacher la vérité aux uns et aux autres, en s'enfonçant toujours un peu plus dans des situations complexes et absurdes. J'espère que ma chronique vous a plu. On continue avec les Walt Disney et Louane. Bonne soirée à tous.
Rebonsoir, c'est Louane et je pense que vous allez vite savoir de quoi je vais parler. Walter Elias Disney, dit Walt Disney, né le 5 décembre 1901 à Chicago et mort le 15 décembre 1966. Est connu pour producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain des dessins animés. Il fonda en 1923 la société Walt Disney Company et devient petit à petit l'un des producteurs des films les plus célèbres. Walt fait une dépression en 1931 et sur le conseil d'un médecin, il part en voyage avec Lily, sa femme. Il revient reposer après avoir visité Washington. Bon d'accord, j'aime beaucoup les dessins animés Walt Disney, mais j'aime encore plus le sujet suivant. Dès la fin des années 1960, lors d'un voyage d'affaires à Chicago, Disney élabore l'esquisse d'un parc de loisirs au pied des studios où il prévoit ses employés passent du temps avec leurs enfants. Le parc Mickey comprend tout d'abord un jardin, une ville du Far West et un espace forain. Les idées qu'il développe deviennent un concept de plus grande envergure et prennent le nom de Disneyland, pardon. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à lundi prochain.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission et je suis en compagnie de...
Julien.
Voilà, donc on va faire tout d'abord le débrief de cette émission. Donc, premièrement, je vais vous faire une critique de Mass Effect Andromeda.
Puis nous allons enchaîner sur la musique Crossfire.
Julien vous parlera de Staline.
Et nous allons enchaîner avec le tube de Jules Chiquita.
je vous présenterai les Escape Games.
Puis ensuite, nous allons mettre la musique White Walls de Macklemore.
Julien vous parlera des Illuminati.
Et pour terminer, nous allons mettre Hey Brother de Avicii.
Bonne émission.
Rétro.
Gaming.
FPS.
MMO.
Histoire.
Gameplay. Voici le quart d'heure du gamer.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul sur Radio Castel 88.1 et aujourd'hui je vais vous parler du jeu vidéo Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, ce jeu qui a donné de grands rêves et de grands espoirs à tous les fans de la série, moi y compris. Sauf que problématique, ce jeu est vraiment celui qui m'a sûrement le plus déplu de toute la série. Pourquoi ? C'est simple. Tout d'abord, on suit l'histoire d'un pionnier nommé Ryder. Enfin, son nom de famille, c'est Ryder. Durant une mission d'exploration pour créer une énième colonie sur une planète soi-disant habitable, il va perdre son père, qui était le pionnier du vaisseau en question, et dans lequel il a embarqué, et va prendre la relève de son père. Il a reçu un avis très mitigé de la part de la plupart des joueurs, même si, en majorité, les joueurs ont apprécié le gameplay. Le plus gros défaut sur ce jeu, c'est qu'on ne suit pas l'histoire de Shepard, du Normandie et de son équipage. C'est cela qui m'a le plus déçu, finalement. Sinon, le gameplay est réellement innovateur pour un Mass Effect, comme le contrôle des véhicules, le mode multijoueur libre, un open world qui n'est pas normalement disponible dans les autres. Mais voilà, j'aurais largement préféré un Mass Effect classique avec tous les autres personnages que nous connaissons, dont Shepard, qu'un nouveau Mass Effect avec de nouvelles fonctionnalités, mais qui change complètement l'histoire. Personnellement, ayant joué au jeu, je trouve que le gameplay reste plaisant, même si cela fait très MMORPG, comparé aux autres Mass Effect, qui étaient, eux, beaucoup basés sur l'histoire et les cinématiques. J'ai pris du plaisir en jouant. Pourquoi ? Simplement car je suis habitué aux RPG, et donc je trouve le gameplay intéressant. Mais si vous n'aimez pas ce genre de jeu, je vous conseille de passer votre chemin. Ce jeu n'est pas fait pour vous. Il y a certaines rumeurs qui disent que le vice-président de BioWare a annoncé un nouveau Mass Effect est en préparation et qui retracerait l'histoire de Shepard, ce qui se passe après l'événement du Mass Effect 3, espérant juste qu'il soit meilleur que ce Mass Effect. Maintenant, je vous laisse avec la musique Crossfire.
He traded his guns for love, but he's caught in a crossfire, and he keeps waking up, but it's not to the sound of birds.
Castel, on aime.
Radio Castel, on aime.
Radio Castel, on aime.
Radio Castel, on aime.
Bonjour à tous, je vais vous parler de Staline. Staline est né à Georgie, en Géorgie, le 21 décembre 1879. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire car ce serait vraiment trop long. Homme fort de l'URSS pendant plus d'un quart de siècle, Staline fut l'un des acteurs majeurs de l'histoire contemporaine. Petit frère des peuples et fondateur des goulags, il était à la fois le grand vainqueur d'Hitler, le modernisateur de l'URSS et l'artisan d'une terreur généralisée dans son pays. Doté d'une réputation d'homme médiocre et peu cultivé, il déploie en réalité un talent exceptionnel pour parvenir au sommet du pouvoir et y rester. Peu importe si Lénine prônait son éviction, il se présente aux yeux du peuple comme le gardien du marxisme-lénisme face aux élites intellectuelles de la Révolution. De même, bolchévique et géorgien, il n'hésite pas à jouer l'identification au grand tsar Ivan le Terrible ou Pierre le Grand pour s'approprier le nationalisme grand russe. Dénué de compétences militaires, il se laisse attribuer le bénéfice de la victoire sur l'ennemi nazi. En somme, Staline sait pervertir tout l'élément susceptible de renforcer sa prééminence dans l'État et l'entreprise de l'État sur l'individu. Mais derrière les images de Staline politique, architecte et de totalitarisme, la vie de l'homme semble obscure. En fait, le Volge dont on affiche le portrait dans toutes les républiques populaires mène une vie austère et laborieuse qu'il se confond avec un seul objectif, le pouvoir. Manœuvrant dans l'ombre pour écarter ses ennemis, réprimant le sang toute menace dans son règne, Staline incarne, à l'instar de son frère ennemi Hitler, une image de tyran transportée au XXe siècle. En février 1917, la Russie est à nouveau en pleine ébullition politique. La révolution se traduit pour Staline par une libération et le retour parmi les cadres de la mouvance bolchevique. Reprenant les rênes de la Pavadas des Mars, il est élu le mois suivant au comité central, en accord avec Lénine sur la rupture nécessaire avec les Mensheviks. Il participe à la révolution d'octobre, membre de Politburo commissaire du peuple aux nationalités et très actif dans les guerres civiles. Staline cumule déjà de nombreuses fonctions sur la question des nationalités. Il suit le point de vue de Lénine en faveur de l'autodétermination et l'égalité entre les peuples. Pendant qu'il tient le pays d'une main de fer, Staline doit pourtant s'inquiéter du contexte international et notamment de la montée des fascismes. Violents anticommunistes, il cherche tout d'abord un soutien du côté des démocraties européennes, notamment l'Angleterre et la France. Si la politique intérieure est à l'heure de la représentation, les partis communistes européens sont invités à collaborer avec les démocrates, tandis que l'URSS rentre dans la SDN en 1934. Mais URSS et démocratie occidentale sont animées de la même méfiance mutuelle. Chacun espère qu'Hitler enverra ses forces contre l'autre. Staline meurt le 5 mars 1953 d'une attaque cérébrale. C'est tout pour moi, je vous laisse maintenant avec la musique Chiquita de Jul.
Elle a le regard qui tue, Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita. Elle a le regard qui tue, Chiquita.
De retour sur Radio Castel 88.1 et maintenant je vais vous présenter ce qu'est un escape game. Tout d'abord, un escape game, donc jeu de la fuite en français, est un jeu coopératif en réalité, donc vraiment dans la vraie vie, où un groupe de personnes se retrouve enfermé dans une pièce ou tout simplement dans un lieu, et ils devront coopérer pour pouvoir en sortir vivant. C'est un jeu évidemment. Donc de l'endroit, résoudre une énigme ou arrêter un malfrat tout simplement. C'est un jeu immersif où vous devrez récupérer des objets, comme par exemple des clés ou des bouts de papier avec des cris de décob, pour pouvoir résoudre les énigmes. Généralement, les énigmes, c'est tout simplement lire les codes et les mettre au bon endroit. Il y aura aussi des coffres, des portes, des passages secrets, des leviers et tout ce genre de mécanismes qui ne pourront s'ouvrir qu'avec un code ou une clé. Pour avoir testé ce genre de jeu immersif, je trouve que c'est bien de jouer en famille ou avec des amis ou des gens qu'on connaît, car cela demande une très bonne exploitation de chacun des points forts de son équipe. Si vous jouez avec des inconnus, vous pouvez être sûr qu'une bonne amitié pourra se créer. Ce jeu est vraiment amusant et j'ai pris du plaisir à jouer ma toute première partie. Je vous conseille fortement de faire une partie si vous êtes fan du genre énigme et tout ça. Je vous laisse maintenant avec White Wall de Macklemore.
Radio Castel, on aime.
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 Radio Castel, ma radio préférée.
Quelle expérience en collège.
Radio Castel, on aime.
Bonjour à tous, c'est Julien sur Radio Castel et on se retrouve pour la dernière chronique de cette émission. Alors, je vais vous parler d'une société secrète, les Illuminati. Ce sont une élite de l'élite. C'est la plus ancienne et la plus secrète des organisations des maîtres du monde. Toutes ces organisations ont un siège social officiel et des membres dont on connaît l'identité. on connaît aussi souvent les dates et les lieux de leurs réunions, mais en ce qui concerne les Illuminati, on ne sait rien avec certitude. Il n'existe aucun élément de preuve tangible. Tout ce que l'on peut écrire à propos des Illuminati n'est donc que déduction et croisement d'autres éléments, comme des pistes historiques, ainsi qu'une étude du mode de pensée des élites, de leur façon caractéristique de voir le monde de très haut, à très long terme et à travers le prisme de leurs croyances. Les Illuminati sont très peu nombreux, c'est l'extrême sommet de la pyramide, ils ne sont pas des milliers à travers les États-Unis et le monde, comme l'affirment certains témoins, qu'ils ont pour mission de brouiller les pistes. Les célébrités du showbiz n'en font pas non plus partie, même si elles en utilisent parfois les symboles pour mieux fasciner les foules. La création des Illuminati marquait le lancement d'un plan conçu pour se dérouler sur plusieurs siècles, en utilisant le contrôle du système financier naissant pour parvenir une domination totale sur le monde. La réalisation du plan s'est ensuite transmise comme un flambeau de génération en génération au sein d'une élite héréditaire d'initiés qu'ils ont su s'adapter à l'évolution technologique, sociale et économique. Les Illuminati se considèrent en effet comme détenteurs d'une connaissance et d'une sagesse supérieure, héréditée de la nuit des temps, et qui leur donne une légitimité pour diriger l'humanité. Les Illuminati sont la perpétuation d'une société secrète très ancienne, la fraternité du serpent, ou confrérie du serpent. Arrête de rigoler, s'il te plaît. Dont l'origine remonte aux racines de la civilisation occidentale à Sumer et Babylone il y a plus de 5000 ans. La civilisation qui domine le monde aujourd'hui est en effet la prolongation de la civilisation sumérienne qui a inventé... Arrête. Excusez-moi. Qui a inventé tout ce qui caractérise la civilisation occidentale, l'administration d'État, l'argent, le commerce, les taxes et les impôts. L'esclavage, les armées organisées, une expansion fondée sur des guerres perpétuelles et l'asservissement des autres peuples. Ce fut aussi la première civilisation à détruire son environnement, pratiquant une agriculture intensive après avoir inventé l'irrigation. Les civilisations sumériennes et babyloniennes ont transformé des prairies verdoyantes en un désert qui est aujourd'hui l'Irak. Depuis Sumer et Babylone, la fraternité du serpent s'est persuadée, en prenant des formes, des noms multiples à travers les époques, exerçant son influence sur les religions et les pouvoirs politiques successifs, dans une longue filiation qui inclut les écoles de mystère, babyloniens, égyptiens puis grecs, l'église chrétienne de Rome, les mérovingiens, les templiers, et enfin les Illuminati et les organisations qui y sont rattachées. Le symbole des Illuminati est présent sur les billets de 1$, une pyramide dont le sommet, l'élite, est éclairée par l'œil de la conscience qui domine une base aveugle, faite de briques identiques, la population. Ce que je vous ai expliqué là ne sont bien sûr que des théories, je ne peux donc pas vous certifier que ce réseau existe. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Bonne soirée à tous, je vous laisse avec Hey Brother.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in